France Inter. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse version estivale. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h sur France Inter. Et si rire pouvait sauver des vies? Ça vous semble peut-être excessif, mais à bien des égards, je vous assure que ce super pouvoir a fait ses preuves. On a tous le souvenir d'un fou rire irrépressible qui nous a mis les larmes aux yeux et on se souvient tous de ce qu'on peut se dire juste après. Vous savez, quand on s'en est remis, ça fait du bien. Bah oui, alors rire ça fait du bien, je vous l'accorde, hein. C'est une palissade, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais avec nos invités ce matin, nous allons voir qu'il est notre arme de bien-être massif, accessible à tous. C'est gratuit, pas besoin de 6 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste qui vous donnera une ordonnance de médicaments non remboursés. Profitez-en! Saviez-vous qu'une minute de rire équivaudrait à 45 minutes de relaxation? Encore plus étonnant que 15 minutes de rire par jour pourrait entraîner une dépense énergétique de 40 calories. Donc là, je sais qu'avec cet argument, certains vont être prêts à rire 3 heures d'affilée pour s'envoyer une tablette de chocolat. Ne me jugez pas, chacun ses failles. Charlie Chaplin disait « Une journée sans rire est une journée de perdu », alors commençons la nôtre ensemble, ce matin en riant. Grand Bien Vous Fasse, c'est tout l'été, de 10h à 11h, pour vous accompagner.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Yasmine Ouglis.
Pas bien, il va plus bien du tout. Ouais, chute. C'est un arbre. Un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, chute?
C'est en allemand.
C'est de l'allemand en plus. Vous êtes taré.
T'as galère.
C'est-à-dire combien de temps?
4 heures.
Vous aurez reconnu Omar Sy dans le film Intouchable, un des rires cultes du cinéma français. Et à mes côtés ce matin, une professionnelle du rire. Bonjour Morgane Cadignan.
Bonjour.
Alors que les choses soient claires, entre vous et moi, vous ouais. tous et moi, Morgane Cadignan, en fait j'aimerais vivre avec vous.
Voilà. C'est vrai.
Parce que en vous écoutant, mon quotidien me semble beaucoup plus supportable, mais je sais que je ne vais pas pouvoir vivre avec vous, parce que vous êtes en tournée avec votre spectacle.
Exactement.
La nuit. Je mens. Vous serez même à la Nouvelle-Ève en janvier 2026. Donc je ne veux pas m'avancer. Mais j'ai l'impression que pour vous, le super pouvoir du rire, c'est de nous faire supporter un quotidien pas facile, facile.
Bah, je crois.
Ah, j'ai cru.
Mais oui, je crois. Après, je ne sais pas s'il faut vivre avec moi. Je ne sais pas si on se marre tous les jours.
Quand, mais de toute façon, ce n'est pas possible.
Vit, donc bon, quand on vit avec moi. Ouais. Mais oui, le but, c'est un petit peu. Mais après, c'est aussi le grand pouvoir du stand-up et de la scène, et de la vanne et de la punchline. C'est de se sentir moins seul et de rire sur les choses quotidiennes et banales.
Et je l'ai dit tout à l'heure, ça fait du bien. À nos côtés aussi ce matin, Mamouz, qui vous fait peut-être rire sur les réseaux sociaux. Bonjour Mamouz.
Bonjour Yasmine.
Alors vous diffusez de la joie sur Instagram avec vos mèmes qui font sourire, mais avant tout, vous êtes une journaliste depuis 25 ans, productrice de nombreux podcasts et autrice du Petit Éloge du Rire. Pour vous, le rire est une thérapie et vous m'avez promis ce matin de nous donner quelques techniques de rire pour améliorer notre quotidien. Vous ne repartirez pas sans nous avoir appris quelque chose.
Ok, on est d'accord ? Challenge relevé.
Rendez-vous tout à l'heure. Le rire est intrinsèquement paradoxal, parfois bon enfant, parfois moqueur. Et ce n'est pas la philosophe Olivia Gazalet qui me contredira, en tout cas j'espère. Bonjour Olivia, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, mais c'est le dernier sorti chez Pocket, Le paradoxe du rire, et si ce n'était pas toujours drôle, qui nous intéresse tout particulièrement ce matin, parce qu'on va avec vous s'intéresser au rire à travers les époques. Et bien évidemment, on ne rit pas aujourd'hui comme on riait au siècle dernier.
Oui, en fait, c'est vrai que le rire, c'est une construction culturelle qui donc évolue à travers les âges, mais aussi à travers les cultures et même à travers les générations. On ne rit pas des mêmes choses en fonction des époques, des aires géographiques, même en fonction des générations. Les blagues qui font rire vos enfants ne vont pas nécessairement rire.
Ça, je suis bien placée pour le savoir. On va approfondir ça tout à l'heure. On parle des époques et en parlant d'époque, en 2025, est-ce que rire ne serait pas finalement notre dernière planche de salut pour tenir debout face à un monde qui vacille? Notre quatrième invité, on est convaincu. Je parle pour vous, Sébastien Liebus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du site Le Gorafi, un site d'information satirique. Sébastien, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Pour vous, quel est le super pouvoir du rire ?
C'est un rire subversif et c'est un rire qui protège aussi.
Ah, un rire qui protège.
Qui peut protéger, qui peut aider à passer une mauvaise journée.
Ouais.
Voilà, et aussi affronter le monde qui nous entoure.
Mamouz, un mot pour qualifier le rire ?
Moi, je dirais, c'est garder son âme d'enfant. C'est aussi cette idée d'essayer de toujours voir la vie avec le sourire. J'adore cette phrase d'Alain Chabat, qui est un peu mon idole, et qui dit que quand on est enfant, on dessine tout le temps. Et pourquoi, je sais pas, à 7-8 ans, on arrête de dessiner ? Pourquoi on arrête de se jeter dans des flaques d'eau avec enthousiasme ? Voilà, moi, je suis pour. Je me jetais dans les flaques d'eau, voilà, avec joie.
Alors là, je parlais des super pouvoirs du rire, que je mets au singulier, alors qu'en fait, si je ne m'abuse, Olivia, il n'y a pas plus pluriel que le rire.
Il y a plusieurs types de rire. Il y a un rire de dérision, il y a un rire ludique, il y a un rire philosophique, il y a un rire tragique. Moi, je préfère parler des rires au pluriel. Et puis, ils ont aussi des fonctions très différentes. Mon voisin vient de parler de la fonction de subversion. Le rire peut être une façon de transgresser des normes, mais il peut être aussi une manière de consolider des normes. C'est-à-dire qu'il peut aussi parfois être au service du pouvoir. À travers l'histoire, on l'a beaucoup vu, ça. Donc, c'est toujours la transgression, quand même, d'un certain type de norme ou d'un certain type de convention. C'est ça qui déclenche le rire. C'est la surprise provoquée par un renversement, quel qu'il soit.
Ouais, le dénominateur commun, finalement, oui. C'est la surprise.
C'est la surprise et l'incongruité. C'est-à-dire que pour que le rire se déclenche, il faut qu'il y ait quelque chose qui surprenne, qui heurte, qui transgresse un conformisme. D'ailleurs, n'importe quelle norme, par exemple une norme du langage, un calembour, c'est la transgression des normes du langage. Une obscénité, c'est la transgression des normes de la pudeur. Et c'est toujours quelque chose qui est heurté, et c'est bien pour ça que les mêmes contenus comiques ne font pas rire tout le monde. Parce que ce qui amuse les uns blesse les autres.
Absolument.
Et c'est toute la difficulté.
Et le paradoxe, comme le titre de votre livre, Le paradoxe du rire, quand on le lit, vous nous faites voyager à travers le temps. J'aimerais qu'on remonte au Moyen-Âge, à l'époque où l'Église condamnait le rire.
Oui, mais bien avant le Moyen-Âge d'ailleurs. Les premiers pères de l'Église, les grands théologiens qui vont constituer la doctrine chrétienne à travers les âges, ont très tôt condamné le rire, parce que Jésus n'a jamais ri. Enfin, en tout cas, ils en ont fait une affirmation, une assertion. En fait, ce qu'on sait, c'est que le rire de Jésus n'est jamais mentionné dans les évangiles. Mm-hmm. Ils en ont déduit que le rire était diabolique. Parce qu'aussi, Jésus n'a jamais ri, mais on s'est moqué de Jésus. Et on s'est moqué de ses disciples, notamment pendant son procès, pendant le calvaire de la Passion, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que l'Église va diaboliser le rire, va le renvoyer au péché, le rapprocher de l'activité sexuelle, moyennant quoi les seuls qu'on voit rire dans les représentations des représentations artistiques, ce sont souvent les sorcières, oui, les prostituées et les folles. C'est renvoyé donc au péché, à ce que l'Église appelle le stupre.
Oui, il y a vraiment donc un côté diabolique, quoi.
Oui, un côté diabolique, parce qu'aussi le rire est volontiers versé dans l'obscénité ou vers justement la transgression des conformismes. Et ça, donc, l'Église, évidemment, se méfie de tout ce qui peut désacraliser les autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, puisque pendant longtemps, la monarchie était de droit divin, donc s'attaquer à l'Église, c'était s'attaquer au roi, et s'attaquer au roi, c'était s'attaquer à l'Église. Donc en fait, il y a un potentiel subversif dans le rire qui a longtemps déplu à l'Église.
On en revient à ce que disait Sébastien, parce que c'est le mot qu'il a utilisé pour qualifier le rire. Alors personnellement, moi, mon rire préféré, c'est le fou. Voilà, c'est le fou. Voilà, je l'adore, le fou rire. Celui que je déteste, c'est le rire forcé. Pourtant, Mamouz, vous écrivez qu'un rire forcé produit son petit effet. Pas besoin de rire franchement pour que ça nous fasse un effet physiquement.
En fait, c'est vraiment ça l'info, puisque j'ai fait une enquête sur le rire, et c'est peut-être ma plus belle enquête journalistique, c'est vraiment d'aller chercher à quoi sert le rire et quels sont ses bienfaits. Et ça, c'est vraiment l'info la plus folle que j'ai apprise, c'est qu'en effet, le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Autrement dit, on a exactement les mêmes effets, et ça provoque les mêmes hormones du bonheur, qu'on nous fasse une très bonne blague de Morgane, ou si je me forçais à rire là, sans raison et sans blague, eh bien j'aurais exactement la même détente, je perdrais les mêmes nombres de calories dont vous avez parlé au début de l'émission. Donc c'est quand même génial, parce qu'on peut agir, et voilà, et des gens qui seraient un peu bougons...
On n'est pas obligé de vivre avec Morgane, finalement.
Non, voilà, si on ne peut pas vivre tous avec Morgane, si ton appart, Morgane, n'est pas assez grand.
Je te confirme.
Et ben voilà, on
se fait rire nous-mêmes, et c'est un rire forcé. Morgane, justement, quand vous êtes sur scène, j'imagine que ce rire forcé limite un peu la gênance, c'est votre pire ennemi.
Bah, c'est mon pire ennemi. Après, non, moi, mon pire ennemi, c'est pas de rire du tout. À la limite, les gens.
Le bide.
En comédie club, quand on va essayer des vannes, les tester pour écrire les spectacles et les construire, ce que le MC demande au début de chaque, ce qu'on appelle un plateau, c'est bon, alors voilà, vous allez voir, il y a des vannes qui ont été testées, qui marchent et vous allez rire. Et il y a des vannes qu'on a écrites ce matin en se disant que c'est très drôle et peut-être que ça marchera pas. Ce qu'on vous demande, c'est de garder un peu de bienveillance dans le visage. Donc en fait, moi, je préfère quelqu'un qui se force un peu à rire en me montrant, bon, c'est pas ta meilleure, mais je suis là, vas-y, continue, ne t'écroule pas, que de pas rire du tout. Alors, en tout cas, quand on fait de l'humour et quand on est sur scène dans le spectacle vivant, il n'y a rien de pire qu'un visage fermé. Un rire un peu jaune, un peu forcé, ça reste un rire, très honnêtement. Et moi, après, je peux en refaire quelque chose derrière, si en plus...
Comme on l'a vu, de toute façon, comme l'a dit Mamouze, ça produit ses effets sur cette personne, donc finalement, le rire forcé n'est pas votre ennemi. Sébastien Liebus, quand vous avez fondé le Gorafi, il y a maintenant presque 20 ans, je crois,
13, 20,
ça va, je suis franchement c'est pareil. Vous vouliez susciter quel type de rire?
Un rire intérieur, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un rire avec lequel on va se taper la cuisse, par exemple, mais un rire, on va dire, de situation. Moi, je dis souvent, c'est drôle parce que c'est vrai, ou c'est triste parce que c'est vrai. C'est un rire très anglo-saxon. Tandis que la tradition française du rire, elle va être un rire franc. Il faut que la blague soit visible, comme le nez de la figure. Il faut que vraiment on comprenne immédiatement. Tandis que le Gorafi, on va être dans un rire qui peut être un rire de niche, qui va être sur des petites références, que ce soit une culture pop ou de situation. On peut jouer aussi sur l'humour politique, mais on peut jouer aussi sur la vie de tous les jours. C'est-à-dire, des fois, on va faire des blagues sur la manière dont les gens vont se comporter dans le métro, chez eux. On va jouer là-dessus et on va adopter le point de vue, en fait, d'un média façon BFM TV, CNews ou LCI.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Yasmine Ouglisse.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
De retour dans Grand bien vous fasse ce matin avec nos invités. On parle des super pouvoirs du rire, ils sont multiples et peuvent surtout être très concrets. Mamouze, vous êtes journaliste, productrice et vous avez la particularité d'être experte en rigologie. Qu'est-ce que c'est ?
J'adore ce terme, moi-même je ne le connaissais pas, c'est pareil, c'est quand j'ai fait mon enquête que j'ai découvert ce mot. Alors figurez-vous qu'il y a des rigologues. Alors les rigologues, c'est des gens qui vont dans des entreprises, par exemple, quand il y a vraiment des problèmes d'entente entre les managers et les salariés et qui vont faire des cours de yoga du rire pour détendre les salariés, parce que on sait que des salariés qui vont plus rigoler, où il y aura une entente entre les salariés, eh bien il y aura 10% de productivité supplémentaire, ce qui est assez fou. Oui, j'ai des chiffres pour tout.
Ah, c'est bien ça, je vais faire venir un rigologue pour m'aider avec mon mari peut-être.
La vraie question, est-ce que c'est plus ou moins cher de faire une livraison de pizza ou un tournoi de baby-foot que d'engager un rigologue pour régler
les problèmes. Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez? Les trois, ce serait pas mal.
Moi, je ferais les trois
en
même temps.
Oui, c'est ça.
Un rigologue qui viendrait livrer des pizzas.
Mais quelle bonne idée.
Et on rigolerait pendant qu'on mangerait les pizzas, c'est très
ça.
Pratique.
Dialogue social rétabli et tout. Nickel, parfait.
On tient un truc, Sébastien. Olivia Gazalet, alors moi, je trouve qu'il suffit de se balader en ville pour constater que certaines personnes rient beaucoup à gorge déployée, d'autres un peu, d'autres pas du tout. Moi, par exemple, je suis très bon public. Est-ce qu'on est tous égaux face à cette faculté de rire?
Il y a rire et faire rire. C'est pas du tout la même chose.
Moi, je parle de rire.
Rire, normalement, c'est une faculté universelle. Donc, on rit tous. Ensuite, après, il y a l'éducation qui fait qu'on peut avoir appris, surtout aux femmes, à qui on a longtemps dit que le rire était malséant pour une femme, qu'il ne fallait pas rire trop de manière trop sonore, trop bruyante. Donc, les femmes ont appris à contenir leur rire, jusqu'à très récemment, parce que maintenant, heureusement, il y a eu cette révolution culturelle qu'on appelle le féminisme et qui fait que les femmes ont quand même le droit maintenant de faire à peu près les mêmes blagues. Mais pendant très longtemps, c'était mal vu et c'est encore très genré. C'est-à-dire que moi, j'avais été intéressée par une étude qui avait été menée à l'époque des agences matrimoniales. Maintenant, ça a été remplacé par les applications,
les applis.
Mm-hmm. Mais c'est un neurologue américain, neuropsychologue, qui s'appelle Robert Provine et qui avait étudié des milliers d'annonces matrimoniales. Et il avait observé que très souvent, ils disaient tous qu'ils aimaient l'humour, mais les hommes, quand ils disaient ça, ça voulait dire « je cherche une femme, bon public, qui rit de mes blagues », alors que les femmes cherchaient un partenaire marrant. Mmh. Donc vous voyez que les attentes sont très genrées aussi.
Et les femmes marrantes, c'était pas voilà. Ce qui attirait forcément les hommes, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous me permettez, il y avait trois raisons pour lesquelles c'était malséant, longtemps malséant de rire. La première, c'est que... Parce que ça offense trois qualités qui sont essentialisées comme féminines, naturalisées comme féminines, c'est-à-dire attendues d'une femme. La beauté, c'est quand vous riez, vous déformez les traits du visage, oui. Surtout à l'époque, il fallait pas montrer ses dents parce qu'elles étaient gâtées, etc. Il y a la bienséance, ça heurte la bienséance, parce que quand une blague obscène, par exemple, une femme bien née autrefois ne devait pas rire d'une blague obscène, elle devait faire semblant de ne pas l'avoir comprise. Mm-hmm. Et enfin, ça heurte aussi la vertu, puisqu'une femme est censée être vertueuse, gentille, ne pas se moquer, et souvent le rire est moqueur. Donc, pour toutes ces raisons...
Avec Morgane, là, on sent un peu...
Au XVIIIe siècle, on n'aurait pas fait le coup.
Même jusqu'au milieu du XXe. Hein.
Ah, ouais. Ouais, c'est très récent.
Les femmes ne pouvaient même pas assister à une comédie au XIXe, il fallait qu'elles se déguisent en hommes.
Eh bien, je suis très peu bienséante, malheureusement.
Et merci pour ce petit rappel.
Merci. Merci.
Alors, j'ai encore un chiffre, Yasmine et Olivia. 7% de la population mondiale ne sait pas rire ou ne peut pas rire. Alors, tout à fait vrai. Donc, tout le monde ne peut pas rire. C'est pas juste que... Alors, pour quelles raisons, ça, on peut se la poser. Est-ce que c'est parce qu'on est, on est coincé dans...
Des maladies psychiques, peut-être.
Psychiques. Et puis aussi, il y a une incapacité. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis entraînée à trouver des outils pour faire rire, parce que j'avais animé une conférence et à la fin de la conférence, il y a une femme qui était venue me voir en me disant « Mais vous êtes marrante, vous pensez que c'est tout à fait naturel de rire ? Eh bien moi, je ne sais pas rire. Aidez-moi. »
Ah, c'est incroyable.
Et alors, vous l'avez aidé ?
Bah, moi, c'est pour ça que je me suis formée pour aller un peu décoincer les gens qui n'avaient pas la capacité. En fait, parfois, c'est aussi une énorme honte, une timidité.
À dépasser.
Oui, voilà, tout à fait.
Oui, une pudeur, parce qu'il y a un côté impudique dans le rire.
Morgane, alors on a parlé d'époque, là je vous parlais d'âge, vous faites partie de ceux qu'on appelle les millennials.
Okay.
Vous avez entre 25 et 40 ans, je ne dirais pas votre âge. En gros, vous êtes entre les jeunes et les vieux.
Je suis très vexée, Yasmine, moi.
On est dans le même bateau, Mamousse, donc vraiment, c'est vraiment son moment à elle. Je crois que pour vous, enfin, votre génération a pris le Covid en pleine figure. Ouais. Je crois que l'humour, ça a été vraiment votre arme du quotidien.
Ah bah, c'est pas pour rien que le stand-up et que le Covid et le confinement a vu naître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes. Ça a vraiment nous transformé notre milieu. Parce que d'un coup, avec ces petits outils qu'on a dans nos poches, qui nous relient au monde, je parle du premier confinement, quand on était vraiment enfermés, tout le monde s'est mis à faire des vidéos avec les moyens du bord. Des vidéos courtes, efficaces, et nous on zappait de plus en plus, donc on a été vraiment abreuvés de tout ce contenu-là, et ça a vraiment créé plein de nouveaux humoristes, mais aussi plein de nouvelles manières de faire de l'humour. Il y avait beaucoup moins de comptes Instagram où c'était juste des facecam à l'ancienne, ou juste des gens qui faisaient des personnages avec des filtres. Donc c'était aussi une nouvelle manière de faire rire, une nouvelle manière d'écrire. Pour plein de gens, donc oui, on l'a pris en pleine tronche, mais ça a été aussi libérateur de peut-être toutes ces nouvelles manières de faire.
Oui, vous en avez fait quelque chose. Sébastien Liebus, je parlais tout à l'heure du Gorafi, donc le principe c'est que vous tordez les actus angoissantes pour les rendre drôles. Je vais citer quelques perles de votre journal pour vous donner le temps, si vous me permettez.
Allez-y.
Alors, je vais vous faire à la façon d'un journal, justement. Culture. Selon une étude, il y a désormais plus de stand-uppers que de spectateurs de stand-up.
Je l'ai vu, c'est très
bon. On est bien d'accord, Morgane.
Mais c'est pas faux. Hein.
Politique. François Bayrou termine sa phrase, commencée le 12 février dernier.
Pardon.
Et enfin, science. Il se fait opérer des amygdales et se réveille avec la voix de Raphaël Quenard. Qu'on embrasse. Franchement, qu'est-ce qui vous attire tant dans la satire, Sébastien ?
C'est ce côté de pouvoir jouer avec la réalité. de la déformer. Et j'aime beaucoup parler d'image mentale. C'est-à-dire que quand on écrit, on est cette petite voix que le lecteur va lire et vous pouvez amener votre lecteur par la main n'importe où. Vous pouvez lui faire projeter devant les yeux n'importe quelle image. Et l'écrit a ce pouvoir-là que l'IA, par exemple, ne pourra jamais avoir. C'est cette vraiment capacité à créer ces images et à les projeter, à jouer avec l'univers, l'actualité. Et tu parlais du confinement tout à l'heure. C'est intéressant, c'est que nous, très souvent, on reçoit des messages de gens qui nous disent merci de nous faire marrer, merci d'être là, merci de nous faire rire. On en a reçu au moment des périodes des attentats, on en a reçu notamment au moment du confinement où les gens nous disaient merci d'être là. Donc, je dirais, on est aussi ce rire réconfortant. On est un peu cette épaule sur laquelle les gens, quand les choses vont mal, ils savent qu'ils peuvent venir sur Logographie et qu'ils vont, ils vont se marrer. Ils vont rire, peu importe. Même quand il y a des drames épouvantables, ils savent que, malgré tout, on va réussir à faire une petite blague là-dessus, sur ce qui s'est passé. Et ça ne va pas être un rire aux dépens. Et ça, c'est un truc aussi qu'on travaille beaucoup avec les auteurs. Quand vous avez un événement dramatique, on dit souvent, les victimes ou l'événement en lui-même, vous les mettez dans un petit rond. Par contre, nous, on va faire des blagues, c'est la manière dont les médias vont traiter l'événement, les conséquences de cet événement, les conséquences à 1, 2, 10, 15 jours, la manière dont, comme je te disais, les médias vont le traiter, les dérivés, tout ça. Donc là-dessus, il y a plein de blagues à faire. Et ce qui fait que ça nous permet de traiter des événements, un déraillement, un attentat, mais on ne va jamais parler des victimes parce qu'on ne fait pas des blagues sur les victimes. Il n'y a aucun intérêt à faire des blagues ou à tourner en ridicule les personnes qui sont impactées. Mais par contre, le comment cet événement est traité, rapporté, analysé et les conséquences, là on peut faire quantité de blagues, et d'articles.
Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui fait le plus rire vos lecteurs ?
Je dirais c'est nos fautes de participe passé. Parce qu'on a inventé une grammaire très particulière et tout. Et on reçoit des fois des mails très agressifs de professeurs de français. Donc je peux dire qu'on peut rire de tout, mais pas avec les profs de français.
Mais c'est quoi cette faute ?
C'est exactement ça. Voilà. Un jour, je reçois un mail genre « Oui, vous avez fait 3 fautes dans cet article. » Et je réponds très gentiment « Oui, excusez-nous, ça ne se reproduira plus. » Et la personne me répond littéralement aussitôt. Genre elle était derrière son écran à attendre qu'on réponde. Et elle répond « Oui, mais quand même. » Oui. 3 fautes.
Très premier degré, quoi. Vous venez de citer des proches qui disaient « on peut rire de tout », mais ne lui disaient pas avec tout le monde. Olivia, ça, je sais que ça vous inspire.
Oui, parce qu'en fait, souvent, on emploie cette phrase à tort et à travers, et on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas.
Exactement. Voilà.
Et en fait, il n'a pas dit qu'il y avait des gens trop susceptibles et qu'on ne peut plus rien dire parce que les féministes et les racisés nous cassent les pieds. Ce n'est pas du tout ça qu'il voulait dire, contrairement à ce qu'on veut lui faire dire.
Exactement.
En fait, lui, il avait dit ça le jour où c'était Jean-Marie Le Pen qui était l'invité du Tribunal des flagrants délits, une émission qu'il animait. Et Jean-Marie Le Pen était là et il a dit qu'il pouvait rire de tout, mais qu'il n'avait pas envie de rire en compagnie, avec ou des blagues de personnes dont le système de valeurs lui répugnait.
D'accord.
Et il avait cité les militants d'extrême droite, les terroristes hystériques et je ne sais plus quel autre genre de personnes. Et effectivement, il y a une autre phrase célèbre de lui, c'est « je veux bien faire des blagues sur Auschwitz avec un juif, mais je ne veux pas jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. » Ah voilà, c'est la même idée.
D'accord.
On n'a pas envie de rire quand c'est un raciste, un antisémite ou un islamophobe qui a fait une blague. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de rire avec lui d'une blague dont je pourrais rire par ailleurs avec un juif ou un arabe.
Mais ça m'amène à une autre question. Est-ce que finalement, le super pouvoir du rire, ce serait pas aussi d'être une sorte de tri sélectif pour qu'on puisse s'apercevoir avec qui on a des affinités ?
Oui, alors c'est à la fois, je dirais que le rire est à la fois un révélateur d'affinité, de complicité et un fabricateur de complicité. Parce que, en fait, si on rit ensemble, c'est qu'on a forcément des complicités communes ou des goûts communs ou des dégoûts communs. Mais ça va aussi fabriquer des nouvelles complicités. Par exemple, les lecteurs du Gorafi se reconnaissent entre eux sur des jokes du Gorafi qu'ils vont. Voilà. Et donc, c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que ça crée aussi des nouvelles communautés de rire.
Ah, mais c'est exactement ça. Par exemple, nous, sur le Gorafi, depuis un mois, on s'amuse à republier chaque semaine la même publication qui s'appelle « Pour ou contre l'humour de répétition ».
J'adore.
Donc, voilà.
Moi, je suis pour.
Et moi c'est aussi. Chaque moi semaine, aussi. On le rediffuse. Oui. Et au début, on se disait, bon, les lecteurs vont finir par se lasser et tout. Et en fait, ça crée vraiment une communauté de fans sur cette publication-là, où en fait, ils reprennent les petites blagues qu'on a fait dans cette publication. Et on, chaque semaine, chaque mercredi, ils attendent qu'on diffuse cette publication du pour ou contre le comique de répétition. Et je pense que c'est sans doute notre meilleur article qu'on a écrit en 13 ans. Je pense qu'on...
C'est chaque mercredi, prochain, vous dites ?
Chaque mercredi.
Bah, on ira voir.
Voilà. Et si on n'a pas le Albert Londres l'an prochain, je ne sais plus quoi faire.
On va suivre ça de près. Morgane, j'ai vu votre spectacle et je peux affirmer que vous pouvez rire de tout, surtout de vous. Vous attaquez à tous les sujets, vous parlez de vos déboires amoureux, votre déception quand vous aviez 14 ans avec Romaric, qu'on embrasse d'ailleurs, si jamais il nous écoute.
Moi je voulais l'embrasser à 14 ans, c'est trop tard maintenant.
Mais en tout cas, vous êtes capable de rire même d'un sujet très touchy. C'est de votre famille.
Je me suis rappelée d'une phrase de ma grand-mère qui va peut-être parler à certaines femmes d'entre vous. Quand j'avais 8 ans, ma mamie me disait toujours, Morgane, faut toujours, toujours sortir de chez toi avec une culotte propre. Assortie et non trouée au cas où tu aies un accident dans la rue et que les pompiers doivent te déshabiller. Voilà, j'imagine que ça parle à des femmes ce soir. En plus, ma grand-mère, j'avais envie de lui dire, attends, assortie ? Assortie à quoi ? J'ai 9 ans. Assortie à mes jouets, mais ça va pas, c'est grave de dire ça. Et parce qu'elle m'a dit ça, maintenant je sais que c'est faux, tu vois, j'ai déconstruit l'idée, mais n'empêche, dans mon cerveau de femme de 34 ans, il y a un truc qui s'est ancré. Parfois, je marche dans la rue et je me dis, putain, bah c'est vrai que si là, je me prends une bagnole, bah je suis pas épilée, quoi. La tuile. Mon tibia va transpercer une jambe négligée et ça, c'est no way.
On embrasse bien évidemment votre grand-mère et votre famille, enfin globalement votre maman aussi, hein, beaucoup dans le spectacle.
Un peu, ouais.
Oui, mais c'est de la famille.
Oui, mais elle était contente que je parle d'elle.
Ah, c'est vrai.
Ouais.
Des mamans
aiment
bien.
Parce que ça peut être tendre de se moquer de quelqu'un.
C'est vrai.
Oui, je me moque de ma maman qui vieillit en disant vraiment que je vais être pareil qu'elle, à pas gérer mon smartphone et à me répéter et à radoter et à tourner en boucle. Mais ce que je dis surtout à la fin, c'est que moi, je devrais jouer mon boulot de comédienne, à lui faire croire qu'elle me l'a pas déjà dit, à lui faire croire que ça m'intéresse son histoire sur sa collègue. Mais je crois que oui, voilà, c'est un peu libérateur le rire pour ça, parce que c'est moi me moquer d'elle, c'est aussi ma manière de lui dire que je la regarde et que je l'aime. Et elle a su le recevoir.
C'est tout ce paradoxe. J'ai envie de vous demander, Mamouze, Sébastien Liébus, vous avez affaire à des internautes, vous publiez sur les réseaux sociaux. Morgane, vous êtes sur scène. Est-ce que vous pensez parfois à celui que vous n'allez pas faire rire ?
Ah bah oui, parce que déjà, il nous écrit.
Oui.
Il se manifeste.
Oui, oui. Mais en fait, moi, j'ai remarqué, en fait, il y a depuis... on va dire, à partir de 2017, on a commencé à recevoir des messages, des mails, qui nous accusaient d'être politiques. Et c'est intéressant de voir que même le mot politique aujourd'hui est devenu une insulte. Où en fait, pour discréditer, disqualifier quelqu'un dans une discussion, il suffit de lui jeter à la tête, mais de toute façon, toi, tu es politique. C'est-à-dire que tu es militant, tu es biaisé et tout. Et ce qui est intéressant dans le cas, pour nous, du Gorafi, c'est qu'on nous a accusé de faire de l'humour politique, c'est-à-dire traduction de l'humour de gauche. Donc, moi, j'invite ces gens-là à regarder la définition de satire, et même de la satire politique, parce que quand on dit satire politique, c'est un pléonasme. Et le terme même de satire politique, vous avez Mark Twain qui a forgé un peu le thème et qui a expliqué comment fonctionnait la satire politique. On parle d'un coup de poing qui part de bas en haut, qui est là pour attaquer le pouvoir, pour remettre en cause les choses. Donc, aujourd'hui, les gens nous reprochent littéralement exactement de faire de la satire politique.
Oui, donc, que c'est l'essence même de ce que vous créez.
C'est ça. Moi, on ne s'est pas réveillé politique hier. Hein. Pardon.
J'avais un prof de théâtre qui disait que de toute façon, prendre la parole dans l'espace public, c'est politique.
Voilà.
Qu'on ait un propos politique. C'est pas politique de faire de l'humour sur Macron. Déjà, être une femme qui monte sur scène pour faire des blagues, c'est politique.
C'est ça.
Peu importe le sujet.
Yasmine Ouglis. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Rire, c'est gratuit, c'est sans rendez-vous, c'est sans ordonnance et ça pourrait nous soigner. Franchement, est-ce qu'on aurait bien tort de s'en priver ? Je suis toujours en compagnie de nos invités, Olivia Gazalet, philosophe, Sébastien Liébus, cofondateur du site satirique Le Gorafi, Morgane Cadignan, humoriste qu'on adore, et Mamouze, qui est donc journaliste, qui a écrit pour une thérapie du rire. C'est un livre dans lequel on apprend que le rire peut faire des miracles. Et hors antenne, vous m'avez raconté une anecdote sur quelqu'un qui a réussi à se soigner grâce à ça. Vous pouvez nous la raconter, c'est pas très clair, mais on s'est comprise.
Oui, et non, c'est Norman Cousin, c'est un Américain et, qui avait une spondylarthrite ankylosante, donc c'est bon, une maladie aussi difficile à dire qu'à soigner, et en fait ça contracte les muscles. Et il s'était rendu compte que quand il rigolait, ses crises étaient moins aiguës, plus espacées, donc il s'est dit... Si quelque chose de négatif peut amener une maladie, un ulcère, etc., bah pourquoi pas, si on regarde des choses positives, peut-être que ça peut me soigner. Et donc, il s'est enfermé dans un motel, puisqu'il était américain, avec des VHS, puisque c'était dans les années 70, et plein de vidéos drôles, de films joyeux, des rom-coms, quoi. Et c'est vrai, véridique, hein. Il les a regardés, il les a bingés, comme on dit, et il s'est soigné. Il a écrit un best-seller, Comment je me suis soignée par le rire, et il a milité, il a traversé les États-Unis pour raconter ça. Et ça revient toujours donc à cette idée qu'on peut agir sur son mental. Ça ne veut pas dire se soigner évidemment de toutes les maladies, il faut faire très attention à ça. En tout cas, dans son cas, ça a fonctionné. Mais j'adore cette idée-là. Moi, c'est vraiment ça, ma philosophie de vie. Et c'est pour ça que je dis que je suis une militante du rire, parce que je pense vraiment qu'on peut agir sur son cerveau, on peut choisir de mettre son regard dans, voilà, ne sera pas de côté, et donc de regarder différemment la vie. Quoi.
Vous venez de parler de philosophie, ça tombe bien, on est en compagnie d'une philosophe, Olivia Gazalé. Le rire comme médicament, c'est un bel essai philosophique, ça.
Oui, absolument. Alors, surtout que je crois me souvenir que Norman Cousin, s'il avait arrêté son traitement médical, pour le coup, hein, donc il a vraiment, il a remplacé par le rire. Oui,
bah, ce qu'on ne recommande pas, quand même.
Ouais. Mais le rire, en fait, c'est un exutoire extraordinaire, ça. Regardez dans les enterrements, vous avez eu une surcharge d'émotions négatives, et c'est Freud qui avait bien expliqué comment le rire allait se substituer à l'émotion négative, avoir récupéré l'excès d'énergie psychique de contenu dans l'émotion négative, comme la colère, la tristesse, la douleur, le chagrin, et le dévier dans ces secousses jouissives de l'abdomen, parce que il ne faut pas oublier que ça, c'est une jouissance, le rire. Pourquoi on aime tout ça? Pourquoi on est prêt à payer des gens comme
moi? Payez-moi de plus en plus cher.
On paye les places très chères.
C'est vrai.
Parce que on va payer parce que c'est une jouissance. Ça nous fait du bien.
Ouais.
Et il y a en plus, comme le disait très bien Mamou tout à l'heure, cette libération des hormones du bien-être qui est donc, d'un simple point de vue psychique, un anxiolytique naturel.
C'est ça.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est que le rire, c'est un bouclier psychique ou c'est une armure qui nous aide à surmonter les événements même les plus douloureux, les plus abominables. Donc,
il y a aussi des bienfaits médicaux, hein, je vais répéter, que ça améliore le système immunitaire, ça renforce le système digestif, ça détend les muscles, ça a des bons effets sur la respiration, le sommeil, ça module la douleur, c'est assez incroyable. En fait, il n'y a pas assez d'études sur le rire.
Mais alors, ce qu'on sait déjà, Mamouz, je l'ai dit en introduction, pour ceux qui ne sont pas fans de méditation, il existe une alternative, puisqu'une bonne séance de rire aurait le même effet. C'est bien ça.
Une bonne séance de yoga du rire, tu veux dire? Oui, bien sûr, en effet.
Enfin, de rire, quoi, je disais, moi.
Oui, bien sûr. Mais alors, soit il y a des Morganes qu'on peut aller voir, soit des films comiques, soit le Gorafi. Moi, j'hurle de rire quand je lis le Gorafi. La créativité sur les réseaux sociaux me réjouit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais comme une curation de ce que je trouve drôle. Et je dois dire que je suis chaque jour émerveillée. Hein, je suis mon premier public. Et c'est d'ailleurs pendant le Covid, où quand j'ai vu toutes les vidéos, la créativité, l'inventivité, enfin, j'étais très heureuse de pouvoir participer au déploiement du rire. Mais alors voilà, si on n'a pas ça, c'est pour ça qu'il y a aussi des techniques un peu forcées, un peu bizarres. Comme
ce rire forcé dont on parle, on va en parler avec le yoga du rire, mais j'ai quand même annoncé des chiffres tout à l'heure, je suis obligée d'y revenir. On brûle vraiment des calories en riant, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup de gens qui nous écoutent. Hein.
Oui. Alors vous avez vu, hein, on a dit c'est 1,3 calories par minute. Donc le summer body, on est foutu déjà.
Si on part en décembre et qu'on rit
beaucoup
dans la journée.
On continue jusqu'à mi-février.
On ne s'arrête pas.
Peut-être qu'on aura perdu un kilo. C'est clair.
Alors le yoga du rire, on en a déjà tous entendu parler. Il se trouve que vous êtes diplômée. Mamouz est diplômée en yoga du rire. Ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Avant d'en parler, on va écouter comment se passe une séance.
Du rire à gorge déployée. Un rire communicatif. Ces Berlinois se sont inscrits ce matin un yoga un peu spécial.
Il est bon de garder un contact visuel pendant les exercices, car cela permet de rire plus facilement. Le rire est contagieux.
Les premiers instants n'ont rien d'évident. Les participants doivent un peu se forcer.
Il y a la devise « Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses ».
Les bienfaits de ces exercices du yoga du rire commencent à se faire sentir.
Inspirons vers la gauche et on pousse un soupir de soulagement.
Il y a un dicton qui dit que le rire est le meilleur des remèdes et qu'il a de nombreux effets positifs. Il renforce le système immunitaire, comme cela a été prouvé scientifiquement. Il réduit le niveau de stress.
C'était un reportage du JT de France 2 d'avril 2025. Il réduit le niveau de stress, ça c'est une très belle promesse. On a envie de tester et ça tombe bien parce que Mamouze, vous avez promis un petit exercice. On va essayer tous les cinq, on est bien d'accord?
J'ai intérêt à être sympa mes camarades hein, parce qu'en effet c'est très bizarre. Oui, ça peut ressembler à une secte, ça n'est pas du tout. En fait, c'est un médecin indien, docteur Katan Madari, qui a créé ça. Et lui aussi, il s'est rendu compte que ça avait tous ses bienfaits. Il s'était rendu compte avec ses patients. Et donc, il a décidé de faire ça gratuit dans les parcs indiens. Et donc, oui, c'est bizarre, mais une fois qu'on s'est jeté à l'eau, c'est assez magique. Alors oui, je peux vous proposer.
On y va.
Donc il faudrait que vous aussi, les auditeurs, vous soyez avec moi. Alors c'est un premier exercice parce qu'on n'a pas beaucoup dit aussi que le rire, c'était dédramatiser, c'était mettre de côté en fait ses soucis. Donc un des premiers exercices, moi j'ai envie de vous demander de mettre un bras devant vous, puis un deuxième bras, comme si vous aviez un sac poubelle entre vos bras. Et vous allez y glisser tout ce qui encombre votre cerveau, votre esprit, le texto de l'ex, la to-do list, voilà, ou tout ce qui vraiment vous angoisse, le PV, les impôts, allez, on y va,
on le remplit,
tout ça, alors voilà, avec des gestes, il faut y aller parce que le corps aussi se rappelle, alors on met tout ça dans notre sac.
Et là, je commence à rire,
voilà. En fait, c'est pas se prendre au sérieux, évidemment. On va venir fermer le sac ensemble et puis on va aller le jeter là, derrière vous, Yasmine, tous
baisse la tête.
Attention parce que le sac de Morgane, il est lourd. Je sais pas ce qu'elle a dit.
Il était trop petit.
On va prendre une grande respiration tous ensemble. Et puis on va accueillir un fou rire. Je vois que Sébastien est atterré.
Sébastien y a bu.
Olivia fait un sourire pas très bruyant. Morgane, elle rigole en se cachant. Yasmine, elle est sympa. Voilà. Alors tout ça, c'est ça aussi l'idée. C'est d'un peu. C'est la technique, la discipline du lâcher prise par excellence. Et c'est ça que j'aime aussi. Sébastien s'en remet pas.
Prendre moins sérieux. Ouais.
Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime. Alors oui, c'est bizarre. C'est toujours compliqué parce que j'ai toujours affaire à des gens qui se pincent le nez. Mais moi, je trouve que c'est pas grave.
En fait, c'est ça le vrai lâcher prise, finalement. Donc ça, c'est un exercice très concret. Et on a le temps d'en faire un deuxième, rapidement.
Alors, je peux dire, c'est très joli. Et ça, c'est quelque chose que... Là, c'est ma mère, Baba Cool, qui m'a transmis. Avec nos petits doigts et notre grande imagination, c'est de mettre des lunettes roses et de se les mettre sur son nez. Et on peut tous le faire ensemble. Et ça, c'est quelque chose que... Voilà, c'est aussi l'idée de mettre à distance les situations.
Moi, je propose quand même aux auditeurs qu'ils le fassent en même temps, mais qu'ils nous racontent après.
Alors, si vous conduisez, vous vous garez sur le... On n'est pas responsable, d'accord ?
C'est vrai. Oui,
France Inter n'est pas responsable de ce qui va suivre, du sketch qui va suivre.
Alors, on y retourne.
Donc, Yasmine, donc on a tous nos petits doigts, là, comme ça. Et en fait, c'est vraiment l'idée de se dire dans la vie de garder toujours ses lunettes roses et donc une distance. Et c'est ça, le rire. C'est aussi de mettre à distance nos soucis. Et puis, nos voisins, ils sont beaucoup plus beaux, n'est-ce pas, comme ça ?
Merci. Plus belle avec les mains sur mon visage.
Et voilà, et toujours
en fait, on se voit tous les uns les autres avec nos doigts autour des yeux. Et en fait, ce qu'on imagine, c'est juste un filtre.
C'est
de voir
rose.
La vie avec un filtre
Exactement,
rose. Donc ça, c'est vraiment ces techniques très concrètes qui nous permettent. Voyez là, dans le studio, on ne se connaissait pas forcément il y a quelques minutes. Et aujourd'hui, on a passé un bon moment à rire ensemble. Sébastien Liebus en a quasiment pleuré. Voilà, chacun sa manière de rire. Sébastien, justement, on parle de ce rire comme comme médicament hein, depuis tout à l'heure. Moi, je dirais que le Gorafi, c'est clairement ce qui nous fait passer la pilule, si vous me permettez ce jeu de mots, que je trouve assez drôle, parce que voilà, je l'ai écrit.
Je valide,
Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise vraiment que vos articles étaient un remède à la morosité?
Oui, tous les matins, dans les commentaires. Moi, j'aime bien lire les commentaires sur nos publications. Il y a toujours quelqu'un qui va nous dire « Ah ben, je suis passé une sale journée et vous êtes le premier sourire de la journée. »
Si ça, c'est pas gratifiant.
Voilà, c'est le meilleur salaire. Et puis de se dire, le matin, je me lève. Enfin, je veux dire, je suis assez privilégié au sens que j'ai un travail qui consiste à faire rire les gens.
Comme Morgane Cadignan, voilà. À vos côtés.
Mais moi, je trouve aussi que le Gorafi, c'est un remède à l'absurdité. Parce que quand je vois parfois passer, je me dis... je me sens moins seule. Je me dis, je suis pas la seule à avoir remarqué à quel point cette info est absurde et ridicule et des gens ont réussi à en faire une blague. Et ça me rassure que j'ai de pas avoir à le faire.
Le mot Gorafi est devenu même dans le langage commun, en fait. Les gens vont dire c'est du Gorafi, c'est le Gorafi. Ouais. Les politiques même, tous les jours, on voit quelqu'un politique sur X ou ailleurs qui va dire, mais non, ce texte de loi, c'est pas du Gorafi.
Vous êtes passé dans le langage public,
exactement.
Ça c'est quand même extraordinaire.
Voilà. France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On l'a vu précédemment avec nos invités, Olivia Gazalet, philosophe, Sébastien Liebus, cofondateur du site Le Gorafi, Morgane Cadignan, humoriste, Emma Mouze, qui nous fait rire sur les réseaux et aussi dans ses bouquins. Donc le rire est un médicament. Et on va s'intéresser maintenant au rire qui dérange, au rire qui veut faire bouger les lignes. On l'a déjà bien évoqué avec vous, Sébastien Liebus. Olivia, moi, ma petite culpabilité perpétuelle m'amène à vous poser cette question. Est-ce que dans un monde qui va mal, finalement, choisir le rire comme arme, ce serait pas une sorte de fuite ? Voilà, c'est ma culpabilité à moi, peut-être que ça parle à nos auditeurs.
Ah, moi, je crois pas du tout qu'on fuit quand on... Au contraire, quand on satirise sur l'information qui nous arrive quotidiennement et qui est de plus en plus absurde, de plus en plus agressive, violente, pour n'employer que des euphémismes, je pense que la démarche de prendre de la distance, prendre du recul et justement ironiser, surtout l'ironisation sur les puissants, je trouve que c'est extrêmement libérateur parce que c'est une revanche qu'on prend sur ce pouvoir qui nous échappe. Nous, on assiste passif à la catastrophe absolue que nous vivons déjà. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de citer une phrase que j'aime beaucoup de Pierre Gueluc, vous savez, le chat.
Oui.
Il dit « Notre passé est sinistre, notre présent est invivable, heureusement que nous n'avons pas d'avenir. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque particulièrement anxiogène, et des humoristes, ou des Morgane, ou des Sébastien, qui en fait, je pense que ça nous aide, au contraire, à supporter l'insupportable.
Oui.
C'est-à-dire que, c'est le seul pouvoir qu'on ait sur un Donald Trump, ou sur un autre bourreau, c'est d'ironiser, de se moquer de lui, de le rabaisser, de le désacraliser.
Complètement, mais c'est ce que disait...
Sébastien Liebus, ça, vous êtes... Vous voulez réagir, ça c'est
oui, parce qu'en fait, ça me fait penser à une phrase de Mel Brooks qui disait que le rire, en fait, ça sert à rien d'aller essayer de combattre ces gens-là sur le terrain, on va dire, politique, ou essayer d'avoir des arguments, parce qu'ils vous rouleront tout le temps dans la boue, en fait. Dans leur manière de faire, ils vous ridiculiseront. Donc, le meilleur moyen d'y aller, c'est de rire d'eux, de leur donner un grand coup dans la cagette sur laquelle ils sont montés, et à ce moment-là, ils tombent. Et c'est ce que fait Chaplin avec le dictateur, c'est ce que fait Mel Brooks avec les producteurs. Et il a toujours dit en fait, l'humour, le rire dans ce moment-là, va désacraliser le politique. Ça, et le politique déteste le rire, parce que je vais utiliser un mot qui risque de faire crier certains, mais il va voir ça comme un blasphème. Parce qu'en fait, on va déshabiller le politique et on va le montrer tel qu'il est.
On va le faire tomber de son piédestal.
Et ça, le politique ne supporte pas, parce que tout d'un coup, vous enlevez tous les habits, tout le truc sur lequel lui s'était construit.
L'esprit de sérieux.
Exactement.
Et vous le ramenez à la terre, aux
c'est
autres.
Ça, voilà.
Alors, Morgane Cadignan, vous êtes humoriste. Vous, quand vous vous servez du rire, c'est pour dénoncer quoi ?
Je ne sais pas si c'est pour dénoncer quelque chose, si ce n'est l'absurdité, mais je ne le disais pas seulement forcément politique, mais juste de nos quotidiens. Moi, tout mon premier spectacle, il tournait un petit peu autour des contradictions générationnelles. rationnel de se moquer de nous, alors en passant par moi, parce que j'adore parler de moi, et que c'est le sujet, et que c'est le sujet que je maîtrise le plus, mais c'est pas pour dénoncer, c'est pour pointer des choses qu'on fait, et la manière qu'on a de tous avoir la même vie, en fait. Parce que je trouve qu'on se prend beaucoup la tête, on est très cortiqué, mais on a tous, au fond, les mêmes sujets qui nous animent et les mêmes sujets qui nous font chier. Ouais, et là, le deuxième spectacle, il est le fil rouge étant le mensonge.
Donc votre nouveau spectacle s'appelle La nuit, je mens, je rappelle.
Exactement. Et c'est pas pour dire, oh là là, le mensonge, quelle vice de l'esprit, c'est pas bien, faut être honnête. C'est juste pour dire, ah, regardez, on ment tous un petit peu. Ouais. Pour pas vexer quelqu'un, on dit qu'on a du travail au lieu de dire qu'on n'a pas envie d'aller à cette soirée, des petits mensonges de convention pour fluidifier un peu le quotidien. Je suis pas en train d'apporter un jugement. Je dis juste, tiens, c'est rigolo, regardez, on fait ça tous, j'en pense pas spécialement quelque chose, mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul, quoi.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est très joli. Moi, c'est vraiment ce que je fais sur ma mousse quand je fais la curation que je relais des gens que je trouve drôles sur les réseaux sociaux. C'est le côté universel. Et moi, je m'attache vraiment de te demander si... Moi, je reçois pas beaucoup pour l'instant et je touche du bois des courriers.
De messages
Non, pas du tout, parce que vraiment, j'ai l'impression que je pointe du doigt ce que tout le monde pense tout haut, si tu veux, l'a pas formulé, et que les géniaux mêmes qui disent en trois mots ce qu'on pense tous... Ben voilà, il y a quelque chose de vraiment où on est tous dans la même merde, dans la vie, quoi. Dans
c'est
la
fédérateur.
Même vie.
Alors, Mamouze, vous décrivez comme une militante du rire. Donc, si je vous projette dans un monde où je crée le gouvernement du rire, Morgane Cadignan serait bien évidemment ministre. Oui. Sébastien Liebus et Olivia Gazelle seraient ses spin doctors.
J'adorerais, je veux tout de suite, je signe.
Et vous, dans ce gouvernement, vous parleriez aux enfants, je crois.
Oui, je serais vraiment, parce que je trouve que ce serait essentiel que de leur apprendre à rire, de leur autoriser à rire, parce que je pense que ça ferait vraiment, qu'il y aurait vraiment des effets même sur le harcèlement, parce qu'on parlait d'autodérision, moi je pense que c'est la première chose à apprendre, savoir se moquer de soi, ce qui fait que là aussi on aurait une armure quand on se ferait attaquer, là aussi un super pouvoir, mais vas-y, allez, attaque-moi, de toute façon je sais très bien que je suis comme ci, comme ça, etc. Et puis aussi de l'importance de ne pas se prendre au sérieux, je pense, et puis on apprend bien mieux si on a quelqu'un qui nous apprend quelque chose en riant et avec fantaisie. Moi, je pense que c'est essentiel.
Apprendre le rire.
Les vertus du rire dans l'enseignement.
Dès le plus jeune âge, à l'école. On se rappelle qu'on peut collectivement se faire une séance de yoga du rire une fois de temps en temps.
C'est Sébastien qui va être mon acolyte.
On peut faire un groupe tous les quatre et convier nos auditeurs à nous rejoindre. Je vous remercie vraiment tous les quatre d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin pour parler de ce super pouvoir du rire. Je rappelle, Morgane Cadignan, que vous êtes sur scène dans votre spectacle La Nuit, je mens, que vous serez même à la Nouvelle Ève en janvier 2026. Et on sera là, en tout cas moi, puisque je ne peux pas vivre avec vous, je l'ai dit et je le regrette. Mamouze, on vous retrouve sur les réseaux sociaux notamment et dans l'émission C'est ça la France sur RMC Story. Olivia Gazalé, Le paradoxe du rire et si ce n'était pas toujours drôle aux éditions Pocket est disponible et on peut donc poursuivre la réflexion avec vous. Sébastien Liebus, Le Figaro, c'est accessible à tous, c'est gratuit.
Le Figaro. Mais c'est bien parce qu'en fait.
C'est devenu le Verlan du Borafi.
Merci Sébastien Liebus
à
consommer sans modération. Merci aux équipes techniques et éditoriales qui ont travaillé avec moi sur cette émission.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.